Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Et nous arrivons aujourd'hui à la fin de la période mécoise. Nous sommes sur les traces du prophète tous les soirs de ce mois de Ramadan sur Beurre FM avec, pour nous servir de guide, l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Et nous sommes l'année 13 de la révélation et on va pouvoir dire première année de l'Hégire bientôt.
Oui, effectivement. Donc, comme je disais tout hier, les compagnons quittent la Mecque en cachette par petits groupes. Alors, pour ça, pour nos auditeurs et pour l'information, le premier à émigrer, il s'appelle Abu Salama ibn Abd al-Assad al-Makhzoumi. Donc, de la tribu des Bani Makhzoum, qui est la tribu de Khalid ibn al-Walid et des oncles maternels de Abu Jahl, Abu al-Hakam, donc le fameux ennemi du prophète. Mais bien entendu, comme j'avais évoqué, que le premier ambassadeur envoyé, c'est Mus'ab ibn Umair. C'est lui qui va enseigner la religion aux Ansar, puisqu'on rappelle que le mot Ansar est le nom que le prophète va attribuer, que le Coran lui-même va attribuer aux Médinois qui vont accueillir les musulmans de la Mecque. Donc ensuite, lui-même, le prophète, reçoit la permission de partir, puisque, comme je le disais, il y a un complot contre lui. Ils doivent, cette nuit, se réunir autour de sa maison, encercler sa maison et rentrer chez lui et le tuer d'un seul coup d'épée. C'est-à-dire de le tuer tous en même temps, de manière à ce que personne puisse dire « Oui, c'est telle tribu qui a tué le prophète. Il faut se venger contre cette tribu. Son sang va se noyer, s'éparpiller dans toutes les tribus et de manière à ce que les Bani Hashim, donc la tribu du prophète, acceptent la diya, c'est-à-dire le dédommagement financier. Mais Dieu en a voulu autrement. Il quitte la Mecque un lundi du mois de Rabi al-Awwal. Il était alors âgé de 53 ans. Et il est accompagné de Abu Bakr Sadir. Mais quand il sort de chez lui, dans sa maison, il y a Ali ibn Abi Talib qui vit chez lui. Mais il le met dans son lit pour que ceux qui regardent à travers la fenêtre, à travers le toit, etc., les fameux assassins, les hashashin, comme on dit, ces mercenaires qui ont été missionnés pour assassiner le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, voient effectivement dans son lit quelqu'un qui bouge, etc. Donc ils se disent, il est dans son lit. Sauf que le prophète, lui, il a déjà quitté sa maison. Et au moment où est-ce qu'il sort, Dieu met, après que lui récite un verset, le sourate Yassine, dans la sourate Yassine, Dieu dit dans le Coran, « وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا » Et nous avons mis devant leurs yeux un barrage et derrière leur tête, derrière eux, un barrage. « فَأَرْشَيْنَاهُمْ » Nous les avons... donc mis dans un état second, donc qui veut dire comment on pourrait dire, aide-moi Philippe à trouver les mots, c'est-à-dire il les a mis dans un état dans lequel ils sont complètement évasifs, ils n'arrivent pas à distinguer
en état de conscience modifié, on va dire.
Voilà, hypnotisés ou bref, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe devant eux. Et le prophète passe devant eux sans que eux ne se rendent compte que c'est lui qui est là devant eux, et il prend de la terre et il met sur la tête de chacun de ces assassins un peu de terre pour qu'ils se rendent compte quand il va se réveiller le lendemain, parce qu'ils vont se réveiller le lendemain abasourdis. Et il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et ils vont tous se lever, ils vont voir qu'il y a de la terre sur leur tête. C'est quoi cette terre qu'il y a sur notre tête? Ils vont se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est passé par là, il m'a mis de la terre, ça veut dire qu'il aurait pu me tuer s'il le voulait. Et ils vont sauter dans la maison, ils vont tous d'un seul coup se jeter dans la maison, et ils vont constater que dans le lit du prophète, eh bien, c'est Ali, le cousin du prophète, qui est là, et qui leur dira, qui c'est qui a un dépôt? Le prophète souhaite vous rendre vos biens, parce qu'effectivement, le prophète était le dépositaire des biens des Mécois. Donc, il va le dire à Ali, rends à un tel, chacun son bien. Donc, Ali va jouer ce rôle de restituer la diya, les dépôts, les amanettes, hein, les fameuses amanettes des Mécois qu'ils auront laissées et déposées chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que Ali va se charger de restituer. Donc il quitte sa maison, on est à Marwa, on est au niveau de là où se situe le Marwa. Il y en a qui connaissent la Mecque, donc ils voient de quoi je parle. Le mont qui, le dernier mont dans lequel on termine et on parachève les rites de, du pèlerinage. Et sur le mont Marwa, à côté de la maison la, du Marwa, il y a la maison du prophète. Le prophète va longer donc le Safa et le Marwa jusqu'à arriver au Safa. De là, il va se diriger vers l'ouest, arriver devant ce qu'on appelle aujourd'hui le, l'équivalent de l'hôtel intercontinental Tawhid. C'est là où se trouvait à l'époque la maison de Abu Bakr Sadiq. Abu Bakr Sadiq l'attend avec deux chameaux et avec son serviteur Amr ibn Fuhayra. Amr ibn Fuhayra va donc prendre et guider les deux chameaux sur lesquels le prophète et Abou Bakr vont monter, et il va les emmener vers le sud au lieu d'aller vers le nord, puisqu'à partir de là les Mécois déclarent une mise à prix et proposent à des chasseurs de primes d'apporter la tête du prophète moyennant une récompense de 100 chameaux. C'est ce que vont faire les Mécois. Ils vont tous chercher le prophète, et notamment bien sûr ils vont aller vers le nord puisqu'ils pensent tous qu'il va voyager et partir vers Médine. Mais lui, non. Au lieu de partir vers le nord, il va partir vers le sud. Donc, il va vers le sud, vers cette fameuse montagne qu'on appelle la montagne du taureau, un Jabal Thawr, où est-ce que tout en haut de cette montagne, qui est gigantesque, elle fait plus de 600 mètres de haut, hein, Philippe, hein, c'est pas un petit truc, hein. Pour arriver en haut, il faut au moins 2 heures. Hein. Quand on est en bas et qu'on veut arriver en haut, il faut au moins 2 heures de trajet. Donc, il arrive en haut. Amr ibn Fuhayra, le serviteur d'Abu Bakr, les installe, leur donne à manger, et il repart, et il efface les traces avec son troupeau de moutons. Et tous les jours, comme ça, Asma, la fille d'Abu Bakr, qui va apporter de la nourriture à son père et au prophète, eh bien, elle aussi va, devoir effacer les traces de ses pas avec les chats, avec les, le troupeau de moutons qui était surveillé par Amr ibn Fuhayra, le serviteur d'Abu Bakr. Et à un moment donné, il y a effectivement des chasseurs de primes qui arrivent et qui se disent, bah, il est peut-être là-haut, dans la montagne du taureau, on va y aller. Donc ils montent, et quand ils arrivent près de la grotte, eh bien, selon la légende, selon la tradition, il est dit qu'il y aurait eu une étoile d'araignée qui aurait tissé sa toile au niveau de la porte dans l'entrée de la grotte, et qu'un nid d'oiseau se serait installé au pied de cette porte. Sauf que la vraie tradition, celle qui est dans le Bukhari, n'est pas du tout celle-là, puisque elle n'est pas, d'abord cette version-là n'est pas conforme aux paroles du Coran, puisque dans le Coran, Dieu, il dit وَأَرْسَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, nous avons envoyé des soldats que tu ne pouvais voir. Donc la toile d'araignée, on la voit, le nid d'oiseau, on la voit, donc c'est pas compatible avec le Coran. Par contre, le Bukhari rapporte que c'est un ange qui a mis son aile devant l'entrée de la grotte, et que même si on voulait rentrer, regarder avec ses yeux à l'intérieur de la grotte, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, ça rendait invisible tout ce qui était à l'intérieur. Ça, c'est la version authentique qui est rapportée par le Bukhari, et qui dit que effectivement Allah a envoyé un soldat, des soldats protégés, malgré le sentiment de tristesse et d'angoisse dans lequel était Abu Bakr Sadiq. Dieu lui-même va éterniser cette angoisse, cette émotion, cet état psychologique difficile que vivait Sayyidina Abu Bakr Sadiq, et que le prophète tentait de rassurer, puisqu'il disait dans le verset du Coran, Thani yathnaini idhuma fil ghar, l'un des deux qui se trouvait dans la grotte lui dit à son compagnon, idhuma idhiyakulu li sahibihi, dira à son compagnon, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Voilà cette fameuse formule que tout le monde connaît et que tout le monde se rappelle, que le prophète a dit à son compagnon Abu Bakr Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, de son vrai nom Abdullah ibn Uthman, alors qu'il était angoissé, dans un état psychologique extrêmement tendu. Il a peur que les chasseurs de primes découvrent la cachette du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Dieu en a voulu autrement, en envoyant des soldats, comme il dit, junoudan lam taroha, invisibles aux yeux de Quraysh, et qui cachèrent la présence du prophète et de son compagnon dans la grotte. Bien entendu, les chasseurs de primes repartent bredouille, et au bout de 3 jours, le prophète et Abu Bakr Sadiq quittent leur cachette et montent sur les deux chameaux que Amr ibn Fuhayra va leur apporter, et bien sûr il est accompagné d'un troisième chameau qui lui est monté par un guide qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit, Donc ce guide est un guide spécialisé dans la géographie de la péninsule arabique. Il connaît bien les trajets, les itinéraires, les points d'eau, etc. Parce que c'est très important. Ça suffit pas de savoir comment, où, vers où aller, mais précisément comment s'arrêter, c'est-à-dire arriver au bon endroit pour s'abreuver en eau, etc. Donc ce sont les étapes nécessaires à un voyage. Donc comme ils ne vont pas prendre l'itinéraire classique, mais un itinéraire bis qui longe la mer Rouge, et donc ils vont aller vers l'ouest en direction de la mer Rouge et ensuite remonter le long de la côte jusqu'à un certain moment et puis après revenir sur le chemin classique. Ils vont être donc avoir besoin d'un spécialiste, de quelqu'un qui connaît bien le terrain. Et effectivement, Abdullah ibn Raqid est tout à fait approprié pour jouer ce rôle-là. Donc il les accompagne. Donc alors qu'ils se dirigent vers la mer Rouge, il y a encore une fois un chasseur de primes qui voit de loin cette caravane, cette petite caravane composée de trois chameaux, et il est à d'autres chevaux. Il est très rapide, il peut galoper. Et il s'appelle Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik voit de loin le prophète et son compagnon et son guide sur leur chameau. À partir de là, il revient voir ses amis, puisqu'il n'est pas tout seul, le chasseur de primes. Et il dit à ses amis, il n'y a personne de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'il veut la récompense pour lui tout seul. Mmh. Donc il dit à ses compagnons, partez. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il en profite et il commence à galoper et se diriger vers le prophète, Abou Bakr et son guide. Quand il commence à se rapprocher, son cheval commence à s'embourber dans le sable, puisque c'est un territoire assez sablonneux. Et il commence à s'embourber dans le sable et carrément il va tomber. Le prophète, quand il va se retourner et voir Suraqah ibn Malik tomber par terre de son cheval, il va revenir, il va rebrousser chemin et il va dire à Suraqah, ya Suraqah, ne veux-tu pas une récompense meilleure que celle qui t'est proposée par Quraysh? Mieux que son chameau. Il dit quoi? Il dit, je te propose la couronne du roi des Perses et ses deux bracelets. Je te propose, si tu abandonnes cette chasse à la prime, je te propose Taj Kisra wa Iswaratay, la couronne de Kisra, la couronne de l'empereur de Perse. Imagine ce qu'il propose le prophète, c'est carrément du fantasmagorique. Là, on est dans l'utopie, dans l'imaginaire. Comment toi, un homme persécuté, tu oses pouvoir prétendre proposer ce qu'il y a de plus cher à l'empire le plus puissant du monde, qui est l'empire perse, à un homme qui vient chasser. Forcément, c'est un charlatan. Mais malgré tout, Suraqah va le croire. Il va le croire et va dire, allez, écris-le-moi alors. Et il va l'écrire et il va lui donner l'engagement de lui donner la couronne plus tard. Ça reste une dette sur le dos du prophète de restituer à Suraqah ibn Malik et il va le laisser tomber. Et là, le prophète va pouvoir quitter la Mecque et donc tranquillement, sans qu'aucun chasseur de primes ne le poursuive et ainsi pouvoir rejoindre Médine cette année 13 de la révélation qui donc déclenchera l'année 1 de l'immigration
de l'Hégire,
voilà, qui est le début du calendrier musulman.
Et vous réécouterez cet épisode en podcast sur beurrefm.net. Si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, dans un instant, rendez-vous en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Allô imam, c'est dans un instant.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur beurrefm.
Ramadan Co, c'est parti, 30 jours avec vous. Ah oui, exceptionnellement, on est en direct ce soir, Imam Abdelali, puisque d'habitude, on est enregistré.
Je savais pas.
Vous savez pas?
Non, je savais pas. Non,
parce que l'agent Fofo dit que vous êtes en direct, mais oui.
C'est pas encore le 1er avril, Philippe.
Ah
et
bon?
Même si c'était le 1er avril, le Kdoub Haram. Tu connais le Kdoub Haram?
Non,
le
Kdoub
Haram. Le Kadib Haram.
Tu vois?
Le mensonge, c'est Haram, même pour plaisanter.
Même pour taquiner.
Même pour plaisanter.
Ah ouais.
La'anallahu al-Kadiba wa la'u
kadiba. Même le 1er avril.
Y compris le 1er avril. Et surtout pour moi, c'est une date douloureuse. On en reparlera.
Le 1er avril. C'est lundi, non?
Ouais, c'est lundi.
C'est lundi.
C'est lundi, la date du décès de ma maman. Ouais.
Lundi.
Allah wa salih.
Bon, on pensera à elle encore plus que d'habitude lundi, Imam Abdelali.
Pour elle.
Bon, alors vous connaissez le principe de l'émission. Allô l'imam, en première partie, vous composez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Est-ce qu'on vous a dit que le grand quiz du Ramadan revenait?
Oui, commence dimanche prochain, Inch'Allah. Voilà. Ça sera les 10 dernières nuits du Ramadan, qui sont les nuits les plus enthousiastes. Et en plus, ça sera des journées rallongées, puisqu'on aura une heure de plus. On gagne une heure. Donc c'est bien. Alhamdulillah. Ce qui va nous permettre de faire effectivement un quiz, mais là en plus un grand quiz quoi.
Un grand quiz.
Du véritable question pour un champion quoi. Avec, oui. Comment il s'appelle l'autre personne qui est parti là, Julien Perse, c'est ça?
Julien Lepers.
Julien Lepers, voilà, ah ouais. C'est ça. Ça sera fini. Non, ça sera Yassine Helmi.
Alors, on a Yassine Helmi, c'est Yassine beaucoup mieux que
Julien Lepers.
Bien sûr, c'est pas comparable.
Ouais, mashallah.
Alors, Nadia est à Toulouse et c'est la première au standard, Imam Abdelali. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Nadia.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, tfadli.
Alors, je voulais vous joindre hier parce que je voulais intervenir sur le sujet de la kafala, je n'ai pas pu. Du coup, je me suis dit que je vais intervenir aujourd'hui pour faire part de mon expérience. Et puis, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu empêché de dormir. En disant que la kafala plénière était haram.
Mm-hmm. Enfin, l'adoption, l'adoption plénière. Hein.
Oui, pardon. L'adoption plénière.
At-tabanni, at-tabanni. Puisque là, on ne parle pas de kafala, mais on parle de tabanni. At-tabanni, oui. Huwa izalat, le fait de retirer la racine biologique de l'enfant et de vous l'affilier à vous. Ça, c'est haram, bien sûr. C'est un mensonge bohtan. Tout simplement parce que c'est une calomnie.
Oui, vous
prétendez que l'enfant est le vôtre alors que ce n'est pas le cas. Y compris au niveau civil. Et ça, c'est pas bien de faire ça.
D'accord, parce que je vous explique peut-être mon cas, parce que c'est vrai que chaque cas est particulier. Donc là, c'est une kafala algérienne. Enfant né sous X, donc pas de filiation connue. Sauf la filiation qui lui a été donnée, bien sûr, à la naissance. Sauf qu'on a bien fait des recherches avant de faire cette adoption plénière. Bien sûr, les enfants sont au courant, les parents, les grands-parents, enfin, tout l'entourage est au courant. Sauf qu'au niveau des papiers, la filiation, il ne la perd pas parce que quand il sort un extrait de naissance intégral, on a bien tout son historique.
Donc, il y a bien marqué que cet enfant est adopté.
Oui.
Bon, exemple, c'est ça, avec la maître Fatima, comment elle s'appelle ?
Bouali,
nous disait que non, on enlevait. Alors, peut-être c'est le Maroc, c'est peut-être différent, le Maroc et l'Algérie.
Mais elle dit que c'était pas possible au Maroc.
Je voulais quand même apporter cette précision parce qu'ils sont bien sur notre livret de famille, mais quand il y a la partie reconnue par et c'est vide. En fait, il y a un vide.
Et est-ce qu'il est mentionné quelque part que c'est bien des enfants adoptés?
Alors sur le livret de famille, non. Mais par contre, sur son acte de naissance, uniquement l'intégrale, on a tout l'historique, c'est-à-dire les changements de nom, le nom initial, tout ça.
D'accord. Eh bien, sachez que votre démarche est halal, il n'y a pas de problème. Je vous rassure, dans votre cas, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il est mentionné au niveau de l'état civil que l'enfant est bien adopté, non pas une affiliation biologique, comme nous l'a fait penser hier Maître Bouali, eh bien, dans ce cas-là, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. La règle, c'est simplement que l'affiliation biologique ne vous soit pas attribuée. Ce que vous ne puissiez pas dire, c'est mon enfant à moi, de ma chair.
Je ne vais pas vous cacher, quand on va à l'école, quand on va chez le médecin, c'est mon enfant. S'il n'y a pas lieu de creuser davantage, c'est vrai qu'on ne dit pas forcément que ce n'est pas notre enfant.
Mais ça, c'est autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller crier sur les toits. L'important, c'est que au niveau d'état civil, vous puissiez l'avoir la preuve et montrer que effectivement cet enfant ne vous est pas affilié. Il y a un hadith qui est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas que le prophète a dit: man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haram. Celui qui se prétend au nom de d'un parent de son père, mais là il parle pas de la mère, mais bon, si il disait que c'est pareil, c'est la même chose, qiyasan, et le prophète et alors qu'il sait que c'est pas son père le vrai père et la mère la vraie mère, fa haramun alayhi raihat al janna fal janna alayhi haram. hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, muttafaqun alayh.
C'est ça qui me fait peur, dans la mesure où c'est vrai que bon, l'entourage est connu, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, au niveau de l'acte de naissance, si on prend un acte de naissance...
C'est bon, vous me l'avez déjà dit, ma soeur.
C'est pas mentionné.
J'ai compris. C'est clair. Voilà. Je vous répète, dans votre cas, oui, c'est autorisé, il n'y a aucun souci, puisque à partir du moment où dans des documents civils, il est mentionné que cet enfant n'est pas votre enfant biologique, mais votre enfant adopté, il n'y a aucun souci. Et je répète, vous n'êtes pas obligé d'aller crier sur les toits, oui, celui-là c'est pas mon fils, celui-là c'est pas mon fils. Non, les gens ça ne les regarde pas. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Ils n'ont pas besoin de savoir. Vous êtes en tout cas sa mère adoptive, donc vous pouvez très bien lui demander de vous appeler maman ou papa si c'est le papa. Il n'y a aucun souci. D'accord ?
Et donc, je voulais apporter cette précision, justement, pour compléter ce qui a été dit hier par rapport à l'Algérie, qu'il y a cette subtilité et qu'il est possible, quand même, de garder la trace de l'adoption en faisant une adoption plénière. Et par contre, il faut avoir la nationalité française d'abord. Parce que
d'accord.
Après, donc, c'est... voilà.
D'accord, merci. En tout cas, merci pour l'éclairage. En tout cas, on en reparlera peut-être avec Maître.
Je pense Boilly. qu'il y aura beaucoup de questions. Merci, Nadia.
Merci, Maître.
Nadia qui nous appelle de Toulouse ce soir.
Au revoir.
Et on reste à Toulouse puisque Aïcha est avec nous au 01 53 48 3000.
C'est
bonsoir, bienvenue
Toulouse, hein,
et bon ramadan, Aïcha.
La ville rose. Bismillah.
Aloui, bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Et si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, vous nous enlevez
bon,
tout ça.
J'ai enlevé.
C'est bien, parfait, Aïcha, on vous écoute.
Bonjour. En fait, j'ai une question. Je travaille dans une société, dans des bureaux. Et ils jettent hachakoum qala'a yishrbou.
D'accord, et alors
et je voulais savoir, moi, je mets des gants, je travaille l'entretien, je fais l'entretien, et je voulais savoir ma hukm fi hada.
Non, il y a juste, anti fi munazzifa. Vous êtes dans le nettoyage, c'est ça?
Exactement, oui.
Même moi, là, je vois une bouteille de, je sais pas, d'alcool quelque part. Je la prends pour la jeter à la poubelle. Et ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que moi, je ne veux pas la mettre dans le frigo pour aller la boire le soir. Bien sûr qu'il n'y a, aucun souci. Si moi, je la prends, je la jette à la poubelle, il n'y a aucun souci. Non.
Okay.
Au fait, c'est très bien. Là, vous le prenez par la main avec des gants en plus et vous la jetez à la poubelle, il n'y a aucun problème. Vous faites votre travail de nettoyage.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.
Non, ma fille, basse.
Merci, Aïcha.
Merci.
Au revoir.
Alors, tiens, Ousmane Timira est arrivé.
Salam alaykoum. Salam alaykoum. Que la paix soit sur vous. Barakallahu fek. Bon vendredi à vous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien.
Très bien. Ça sent pas le vélo aujourd'hui, Ousmane?
Non, il pleut.
Il fait un peu gris. Des masses.
Quand je suis sorti, je me suis dit, heureusement que j'ai pas pris le vélo parce que. Voilà.
Il faisait froid, je peux vous dire.
Mais j'en ai profité pour parler avec ma maman. Du coup, il y a le soleil dans mon cœur.
Aïe, ouais, t'as de la chance, toi.
Pendant le trajet.
Oui, pendant le trajet, en venant ici, on parlait du Sénégal, de ce qui se passe avec Ousmane.
Une fois, je t'avais dans ma voiture, tu avais parlé avec elle.
Oui, effectivement.
Ils ont une relation fusionnelle, Ousmane, avec sa maman.
C'est ce que les gens disent.
Machallah, c'est bien.
J'aime ma maman. Elle m'a appris à marcher.
Et à parler.
Et sur deux jambes.
Et à parler.
Et sur
à
deux
bien
jambes.
Parler.
Mais quand un homme marche sur deux jambes et qu'il dit que ma mère a appris à marcher, il veut dire autre chose. Elle m'a appris à marcher comme un homme.
Un homme. Et la définition de l'homme, c'est huwa al-haywan an-natiq. C'est l'homme parlant. C'est l'animal parlant.
La définition d'Aristote. Oui, c'est ça, d'Aristote.
Alors, c'est Mej qui est avec nous. Mej, bonsoir, bienvenue.
Oui, et bonsoir à tous. Merci. Et je voulais vous remercier dans un premier temps pour tout ce que vous faites depuis des années. Je vous suis toujours. Je voulais remercier Ousmane Timira pour vraiment tout ce qu'il nous apporte tous les soirs, parce qu'en tant que musulmane de France... Il me donne une énergie et une inspiration pour la suite, je n'ai pas de mots, l'imam encore plus. Voilà, merci à vous tous parce que vous êtes vraiment une équipe complémentaire depuis des années. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça. Pour ma question, je vais essayer d'aller vite. Voilà, j'ai des proches, malheureusement, qui n'ont pas pu faire l'Umra parce qu'ils sont décédés ou parce que, voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas en situation de pouvoir le faire. Et on voit un petit peu fleurir des sites internet dont on nous dit qu'ils sont de confiance, où on peut payer des gens pour aller faire des étudiants, par exemple là-bas en Arabie Saoudite, qui peuvent aller faire leur Umra à la place.
Par délégation.
Voilà, par délégation. Je voulais savoir si c'était valable et si vraiment c'était pas le cas, si on avait des associations ou des personnes sûres auprès desquelles on pouvait se rapprocher pour entre guillemets, offrir faire ce don pour nos proches qui n'ont pas la possibilité de le faire.
Ben oui, la réponse est oui. Le prophète, un jour, alors il y a plusieurs hadiths, hein, mais je vais en citer un. Une femme est venue voir le prophète. Ya Rasulallah, inna abi shaykhan kabiran a ahujju an. Le prophète a dit na'am. Et elle est repartie. Ça, je traduis. Une femme est venue voir le prophète. Ya Rasulallah, mon père a atteint un certain âge qui l'empêche de voyager parce qu'il est trop vieux pour se déplacer jusqu'à la Mecque. Est-ce que je peux faire le hajj pour lui? Le prophète lui a dit oui, tu peux faire le hajj pour ton père. Donc le hajj et la umra, pareil aussi, par délégation, à l'unanimité des savants, c'est autorisé. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à qui on confie cette tâche-là.
La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire confiance au site internet.
Alors je connais pas le site internet. Donc, moi parce que effectivement j'ai des connaissances là-bas à la Mecque, donc souvent je le propose à la radio, hein, je propose et donc je donne mon numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés puisque je l'organise. On a des étudiants. Alors vous avez trois avantages dans cette sadaqa que vous faites. À la fois vous récompensez votre père, la personne décédée. À la fois vous aidez un étudiant qui étudie à l'université ou bien Dar al-Hadith à Mecca ou bien le Jami' al-Islamia, donc ils sont des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc c'est une sadaqa pour aider un talib ilm, et ce talib ilm qui va devenir un imam, donc un imam qui est ce qu'on appelle insan yajma' al-ulum, qui ramasse qui rassemble des connaissances pour pouvoir après devenir imam dans son pays et devenir un da'iya dans son pays. Donc c'est aussi une contribution à former des ulama et des savants pour qu'ils puissent enseigner la religion dans leur pays après. Donc tout ça, ça contribue à faciliter, et tout en ayant bien entendu vous aussi la récompense de tout ça, à la fois pour votre défunt et pour vous-même.
Ousmane Timira.
Oui, avec toute l'affection et l'amour que j'ai pour notre imam, je vais me permettre d'être un peu en décalage avec lui ici. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec cette opinion pour la simple raison que nul ne porte le fardeau d'autrui, dit le Coran, et que chacun aura pour récompense ce qu'il a mis en place comme action. Et le fait qu'effectivement, je connais ces hadiths-là, le fait que l'on dise qu'à un moment donné, une personne peut prier à la place de quelqu'un d'autre.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, c'est un exemple, je parle pas de vous.
Prier, non, on peut pas.
Mais de prier à la place, ou aller faire une obligation quelconque, jeûner à la place de quelqu'un d'autre, ou sortir la zakat à la place de quelqu'un d'autre. Enfin bref, les différentes actions qui incombent à un individu peuvent être remplacées par un autre individu. Je pense que ça contredit frontalement le principe coranique ici.
Alors non, je suis pas d'accord avec toi, parce que le verset coranique, comme tu dis, wa la taziru wa ziratun wizra ukhra
wa anna sa'yahu sawfa yura.
Naam,
wa sa'yahu thumma yujzahu jazaa al-awfa.
Naam, طيب, naam. Ana rabbit wuldi. J'ai éduqué mon enfant.
Il y a ce hadith
d'accord,
qui parle de ça.
On est bien d'accord. Mon fils, il me fait des doigts après ma mort.
Oui, ça c'est.
Est-ce que ça.
Ça rentre?
Non, bah non. Si. T'as dit, bah non. Selon ta règle, on ne peut pas, dès qu'on meurt, c'est.
Non, ne me coupez pas. Là. Le hadith qui parle de ces trois choses qui restent, qui perdurent après la mort d'une personne, elles perdurent pour quelles raisons? Le savoir, le fait de laisser une bonne action derrière qui perdure, ou un enfant qu'on a éduqué. Parce que c'est la continuité de l'action de soi. C'est moi qui ai planté cette action.
D'accord.
Donc il est normal
d'avoir une personne qui va faire une umra pour une autre personne, attends, je répète, oui. Je continue, et qui va là-bas faire le tawaf, faire des duas pour elle, faire le tawaf pour elle, faire des prières pour elle.
Ça n'entre pas dans son action, parce que ça n'est pas ça n'est pas une. Là, c'est imtidad al-ramalihi. C'est une personne quelconque qui n'a rien à voir avec cette personne. Et je lui donne l'argent.
Donc on fait pas de dua pour nos parents.
Non, c'est pas la dua. Ah bah si, on parle du rituel, le fait d'accomplir
la dua, c'est le plus grand rituel, le dua.
La dua pour une personne.
En tout cas, Othman.
Mais enfin voilà, c'est un peu la position que
moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les ulama travers les siècles, ont été tous unanimes.
L'esprit critique.
Oui, tu as l'esprit critique des ulama.
Et avec un hadith, avec un verset du Coran, le verset. Poser les choses.
Non.
On est d'abord responsable de ses propres actions.
On est d'abord, voilà, tu viens de le dire,
responsable
de ses mauvaises actions. Le Coran dit.
Et non, de ses bonnes actions aussi.
Wa la taziru wa ziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Non. Là, on parle de péché. On ne parle pas de bonne action. On ne portera pas le fardeau, le péché des autres.
Le débat,
c'est ça ce que dit le verset du Coran.
Le débat est intéressant, mais on est pris par le temps. Allô l'imam, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et c'est allô l'imam au 01 53 48 3000. Alors nous avons Abdelkader qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan Abdelkader.
Bonsoir.
Bonsoir Abdelkader.
Bonsoir.
J'aurais deux questions. La première c'est... est-ce que pendant le ramadan, moi je vois beaucoup de gens, ils disent que la musique est interdite et haram.
Moi ouais, j'ai pas lu ça dans le Coran ni dans la Sunna authentique. J'ai pas lu ça, mais je dis même les choses qui sont licites doivent être consommées avec modération et avec, avec bon sens.
Est-ce que moi j'écoute du Anachil.
Moi-même, des fois, j'en diffuse à la radio, comme ce soir, voilà. Peut-être on en aura une, je ne sais pas. Voilà. Mais des fois, on diffuse des chansons avec des paroles qui sont saines, et etc. La musique, à quel moment elle est interdite? C'est quand les paroles sont interdites. Les paroles sont d'incitation à la débauche, ou ça parle de choses qui sont malsaines, etc. Mais à partir du moment où les paroles sont propres, sont saines, etc., et incitent à faire le bien, il n'y a aucune difficulté. Et on écoute de la musique pour apprécier un moment de repos. Voilà. Et pas pour passer toute la journée à s'échapper de ses obligations. Ouais, pas de prière, pas de Coran, pas de devoir, pas de rien. Donc si c'est un échappatoire à ses devoirs et ses obligations, là, effectivement, il franchit une ligne rouge. Qui devient pour lui interdite, parce que là il tombe dans une forme d'addiction. Voilà, et c'est comme les jeux vidéo, hein, pareil, hein. Les jeux vidéo, la musique, à partir du moment où le gars il est avec des écouteurs toute la journée, il écoute que ça, et en plus c'est des paroles souvent qui sont pas très nobles. On n'a pas été créé pour ça, hein. La musique, c'est un moment de plaisir, de repos, de détente, et ça s'arrête là. Donc et la détente et la pause, elle a un temps limité. C'est pas toute la journée avec les écouteurs et les iPods, comment on appelle ça?
C'est comme tout, en fait.
Voilà, avec modération.
Avec modération, c'est comme tout.
Voilà, exact. T'as d'accord. Tout compris.
Et la zakat, elle fait, c'est combien par personne pour un foyer?
Alors, si le foyer est un foyer aisé, on peut aller jusqu'à 9 euros. 9 euros d'accord. Par personne. S'ils sont ceux en difficulté, ils peuvent descendre jusqu'à 7 euros.
D'accord.
Par personne, toujours.
D'accord. Je vous explique mon cas. J'ai mon beau-frère qui est arrivé d'Algérie. Je l'héberge. Mais en fait, il a un salaire. Il travaille. C'est à moi de la sortir comme je l'héberge, ou c'est à lui de la sortir?
Est-ce qu'il a les moyens de payer?
Il a les moyens, oui.
Il la paye pour lui-même, c'est bon.
D'accord.
T'es pas obligé de tout payer pour lui, hein. Il n'est pas normalement de ton devoir de le prendre en charge. Là, tu l'as pris en charge avec générosité. T'es pas obligé de tout faire. C'est pas obligé de tout gérer dans ses besoins à lui. Donc déjà, ce que tu fais, c'est déjà une sadaqa, hein, en l'aidant. Mais t'es pas obligé de prendre tout en charge. Imaginons si tu prenais en charge sa nourriture, mais pas ses vêtements. Tu prends en charge, par exemple, son logement, mais pas sa nourriture. Ou tu prends en charge, je sais pas moi, une partie de ses besoins, mais pas zakat al-fitr, par exemple. Bah, c'est aussi ton droit. Tu n'as pas l'obligation de prendre la totalité de sa charge, parce que soi-disant, tu en assumes une partie. Hein, c'est pas parce qu'on a une partie, on assume une partie, qu'on a l'obligation de faire la totalité. Qui a ce devoir-là, de prendre la totalité? Ce sont ceux qui sont sous ta charge, c'est-à-dire tes parents s'ils sont chez toi, et tes enfants, et ta femme, bien sûr.
Mes enfants qui sont en bas âge.
Ouais, et qu'ils habitent à la maison. Tant qu'ils sont à la maison chez toi, tu dois les prendre en charge.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Je vous remercie.
Je t'en prie. Michel,
merci, Abdelkader. Alors, essayez de poser une question, parce que ça permettra à tout le monde de pouvoir poser au moins une question à l'imam, et puis vous reviendrez. Alors, Soraya est avec nous au 01 53 48 3000. Soraya, bonsoir, bienvenue, et bon ramadan.
Merci. Bon ramadan à vous.
Bon ramadan. Ramadan Moubarak Karim.
Une petite question concernant la prière. Donc quand on fait la prière, du coup, on récite la Fatiha et une sourate. Et moi, je la commence en disant chaque fois, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. mais il y a d'autres personnes dans mon entourage qui commencent directement par les versets.
Ben, ce sont deux avis des écoles juridiques musulmanes. L'école malikite, par exemple, rapporte que Aïcha a dit que le prophète, quand il disait Allahu Akbar pour débuter sa prière, il disait tout de suite derrière Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni du Al-Siftah, ni Ta'awud, ni Basmala. Donc il commençait tout de suite après Allahu Akbar, il disait Alhamdulillah. C'est possible que tout simplement le prophète a fait comme ça et comme ça. Et d'autres versions nous rapportent que le prophète récitait ou se taisait un certain, ouais, ou en chuchotant récitait la Fatiha, la Basmala, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et d'autres cas, d'autres situations où il récitait à voix haute la basmala. Donc moi personnellement je suis plutôt d'avis c'est bien si vous le dites. Si vous dites la basmala, c'est bien. Si vous dites la basmala, c'est bien. Voilà, c'est bon, j'ai répondu à votre question.
Oui, Imam Abdelali, vous êtes parfait.
Mais c'est pas obligatoire. Si quelqu'un n'a pas récité la basmala, votre prière est quand même valable, ça c'est sûr.
Bien, 0153 48 3000, vous avez compris, c'est à l'imam et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun.
Ramadan & Co. Reviens dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et les Toulousains sont en force ce soir puisque Mohamed est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Mohamed.
Oui, salam alaikum. Je peux Oui, je me permets de vous appeler. Enfin, j'ai pas forcément des questions, mais j'ai écouté le débat qui était entre Ousmane Kimara et l'imam Abdelali Mamoun concernant le Hajj pour une autre personne et
ou la Umra. C'était la Umra en l'occurrence.
Ou le Hajj. Le Hajj ou la Umra, les deux.
Il me semblait que vous avez parlé de Hajj.
Oui, oui, c'est vrai, tu as raison.
C'est pareil.
Et vous avez cité que c'était l'unanimité des quatre madahib.
Oui.
Mais selon ma maigre connaissance, selon le même Malik, il s'avère que l'argumentation qui a été avancée par Ousmane, c'est exactement la même. Donc, il me semble, et à vérifier.
Bah alors, écoute, je vais te lire le texte, ça va être bien. فإن لم يفعل وحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه قيل يفسد حجه في رواية عن الإمام أحمد. Donc, ça veut dire que tu peux pas faire le Hajj pour une autre personne si tu l'as pas d'abord fait pour toi-même selon Ahmed. Ça c'est la traduction. وقيل يصح حجه عن غيره وهو لأبي حنيفة. Et tu peux le faire pour une autre personne selon l'avis d'Abi Hanifa. وهو مروي عن مالك أيضا. Et c'est aussi l'avis rapporté selon Malik. جاء في التاج والإكليل. Ça a été dit dans le livre At-Taj, qui est une référence de l'école malikite, et l'Iklil, qui est Jawhar l'Iklil, un charh Matn Khalil de l'école malikite. La yuhujju ghayrahu hatta yuhujja an nafsihi. Voilà ce que dit le livre. Tu ne peux pas faire le Hajj pour quelqu'un d'autre jusqu'à que tu fasses le Hajj pour toi-même. Fa in fa'ala ajza'a anhu 'inda Malik 'ala karahiyatin minhu. C'est-à-dire que malgré cela, l'imam Malik dit qu'il est quand même valable avec des karahiyah, c'est-à-dire avec détestation. Voilà. وقيل ينقلب حجه لنفسه صحيحا فيكون له لا عن غيره. S'il fait le hajj pour une autre personne, alors que lui ne l'a pas fait pour lui-même, eh bien ce hajj-là lui sera compté pour lui et pas pour la personne pour qui il l'a fait. وهذا للشافعي. وهذا للشافعي. ورواية عن أحمد. Et une version de Ahmed. قال ابن قدامة. في المغني لو غرو ليف دو المغني كي لا ريفيرونس دو ليكول حنبليت ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجه عن نفسه وجمله ذلك انه ليس لمن لم يحج حجه الاسلام ان يحج عن غيره. Donc il dit la conclusion c'est que celui qui n'a pas fait le hajj d'abord pour lui-même ne peut pas le faire pour autre. Mais s'il l'a fait pour lui-même, ça veut dire qu'il peut le faire pour autre. C'est l'avis de l'Auza'i, Shafi'i, Ishaq ibn Rahawi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut. Si maintenant vous croyez plus savant que ces grands savants, il y a Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Auza'i, Ishaq, alors là, monsieur Othman, Allah yassahel alayk.
Non, il ne s'agit pas d'être plus savant que
moi,
eux.
Écoute, je te dis.
Attendez, là, ce que je vous demande, c'est de me laisser finir sans me couper. C'est une question de méthodologie. Vous connaissez le usul al-fiqh. Le fait de dire que l'avis, si c'est des avis d'autorité, l'avis d'autorité n'a pas de valeur en islam. Il faut des arguments. L'argument est coranique ou prophétique.
Ah bon, si et c'est les hadiths que je te rapportais dans le Bukhari,
j'ai dit,
pas...
faut pas me couper. Ouais, attendez. Vas-y. Ces hadiths-là, je les ai étudiés comme vous et vous les connaissez mieux que moi. Je dis juste sur la question de la méthodologie. Un hadith ne peut aller à l'encontre du Coran. premièrement. Deuxièmement, un hadith, et c'est là peut-être un désaccord méthodologique entre vous et moi, un hadith rapporté par un individu, c'est-à-dire un hadith qui n'est pas unanimement apporté par un groupe important, mutawatir, selon un certain nombre d'écoles hanafites, et selon la méthodologie que moi-même j'accepte, c'est que on ne peut pas l'accepter dans le domaine de la législation. Pourquoi ? Parce que le prophète ne légiférait pas pour un individu. Il légiférait pour une communauté. Un tel acte tel que le hajj, ça peut pas être apporté par une personne ou deux personnes.
Ça, c'est ton point de vue, et c'est un avis au sunni qui n'est pas celui des ulama.
Oui,
puisque tu contredis les quatre écoles.
Laissez-moi finir. Je parle en tout cas de méthodologie. Et ça n'est pas, c'est pas parce que vous me rapportez l'ensemble des savants sur le sujet, je questionne leur argument. Est-ce qu'un hadith ahad peut être suffisant pour mettre en place une obligation?
Tu n'as même pas étudié la chaîne rapporteuse de ce hadith-là.
Attendez,
tu parles de hadith ahad. Donc tu as déjà conclu que le hadith est ahad.
Tu ne l'as pas étudié. Je l'ai étudié.
Tu l'as étudié le sanad?
Je l'ai étudié.
La chaîne rapporteuse?
Attendez.
Islam Ben Ahmed, il aurait répondu à cette question.
Attends une minute. Mais moi, je suis pas Islam Ibn Ahmed. Je donne juste, je dis pas que j'ai raison à 100%. Je dis, donne les principes, après, faites comme vous voulez. Je dis, à un moment donné,
mais le principe, il est pas bon. Parce qu'il contredit les principes des savants qui sont eux les fondateurs de ces mêmes principes.
Eh ben, les savants ne sont pas la révélation.
Kitab al-Umm wa Risal al-Shafi'i, ce sont eux, ces gens-là, qui sont les fondateurs de ces principes qu'on appelle Usul al-Fiqh
al-Islami. Pour que les gens comprennent.
Pas au 20e siècle, 21e siècle.
C'est pas grave. Pour mon point de vue, je dis juste que, après vous faites comme vous voulez, que le Coran dit que le hajj c'est pour ceux qui en ont la capacité. Ouais. Des personnes qui n'en ont pas la capacité n'ont pas à se faire remplacer dans pour l'accomplissement de cette obligation, premièrement. Deuxièmement, la source est individuelle quant à la récompense. Troisièmement, enfin, un hadith qui est ahad, ils ne sont pas mutawatir, doit être questionné quant à sa validité pour légiférer. Ce point de vue n'est pas celui de tous les savants.
Il a été questionné, et tous les savants sont unanimes pour dire oui, on peut. Bon, c'est ça la différence. S'il y avait au moins un avis qui dit non, vas-y, montre-moi. Ramène-moi un avis d'un savant, pas celui d'Othman.
Je vais demander à ce qu'on vous coupe les micros.
Non, Othman.
Non, parce qu'il y a un avis qui vous attend.
Non, mais s'il y avait un avis qui disait non, là, je te dirais d'accord. Mais il n'y en a même pas un.
En fait, votre source à vous, c'est ce que les
savants disent. Agent Fofo, tu coupes les micros.
Et les hadiths, je t'ai cité, non, ça ne suffit pas.
On reprendra quand Kamel Chekat aura. Non, le micro est coupé, on ne vous entend pas. On reprendra quand Kamel Chekat aura parlé. Pas qu'on veut pas que vous parliez, c'est qu'il faut avoir le respect d'accueillir celui qui est là tous les soirs à 18h. Kamel Chekat, bonsoir, chercheur en théologie. Ah ben ouais, mais sinon Kamel, vous savez que là on est mort dans l'œuf, on en a jusqu'à 20h, donc.
Salam alaikum, cher Kamel.
Kamel Chekat, votre chronique cette année, c'est les contradictions supposées du Coran.
Salam
alaikum. Wa alaikum salam, marhaban Cheikh Al-Fadir, bibarak fik.
Je ne sais pas s'il y a des invités autour de vous, mais bon,
salam alaikum. Wa alaikum salam.
Alors, la contradiction supposée d'aujourd'hui concerne la période de viduité, c'est-à-dire la période où après soit un divorce ou bien le décès du conjoint, la femme doit rester en attente sans se marier. Alors, nous avons le verset de 240. Nous avons un verset déjà qui nous dit « Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laisse des épouses. »
On n'entend plus ?
Alors, non, on a perdu...
Oui. Si ce sont elles qui partent, c'est-à-dire qui sortent du sein du domicile, alors on ne veut pas que je...
Alors Kamel, on a un problème avec avec la liaison aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu?
Allô?
Oui, voilà. Est-ce que vous nous entendez, Kamel? Kamel, est-ce que vous nous entendez? Voilà, il a eu peur. C'est le téléphone de Kamel Chekat qui a eu peur. Il vous a entendu. Il a dit c'est ça, j'ai pas fonctionné, je vais leur laisser du temps. Alors on va réessayer de joindre Kamel Chekat pour pouvoir rétablir la liaison et la ligne. Mais c'est vrai que la liaison directe depuis l'Algérie est parfois compliquée. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que ça fonctionne pas, c'est ça ? La ligne ne passe pas, c'est ça ? C'est Jay-Z ? C'est Jay-Z qui veut pas ce soir. Donc, si Jay-Z veut pas, on va réessayer sur une autre ligne. Voilà, parce qu'on a plus d'un tour dans notre sac. L'agent Fofo a plusieurs lignes, comme vous le savez. Parce que l'agent Fofo a des dossiers sur tout le monde. Donc il a plusieurs lignes. Alors, là, on est sur la ligne numéro 2. On a quitté Jay-Z, c'est ça ? Bon. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rejoindre Kamel Chekat ? Non plus. Bon.
Oui. Très bien, Charles. Moi, je voudrais quand même faire une conclusion à tout ça. Quand j'ai cité tout à l'heure le hadith que Usman a remis en cause et qui dit qu'il est ahad, etc., je veux bien lui accorder.
Alors, ça veut dire quoi, ahad ?
Ahad, ça veut dire qu'il a une chaîne rapporteuse. Pour lui, il n'y a pas assez de chaînes qui vont confirmer, parce que quand on légifère, il faut qu'il y ait plusieurs versions. Sauf que là, on parle de quoi ? Écoutez bien, il faut que les gens comprennent d'un point de vue chronologique de quoi on parle. On parle de Al-Bukhari qui est mort en 256, c'est-à-dire au 3e siècle de l'Hégire. Et c'est lui qui a authentifié le hadith en disant qu'il était il l'a rapporté, disant qu'il est authentique. Sauf que ceux qui ont validé cette fatwa, c'est pas des gens qui sont venus après Al-Bukhari, on dit, sur la base de ce qu'a dit Al-Bukhari, nous on va dire qu'on peut ou on peut pas. Non, ce sont des gens qui ont vécu avant Al-Bukhari. Là, quand on parle de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, de Ishaq ibn Rahoway et de tous ces savants-là, ce sont des savants qui ont vécu et qui ont connu le hadith avant Al-Bukhari lui-même. Puisqu'ils ont vécu au 2e siècle, au début du 3e siècle. Longtemps avant Al-Bukhari. Donc si eux disent oui, c'est qu'ils connaissaient le hadith avant Al-Bukhari, avant même que Bukhari vienne et le recueille dans son ouvrage connu.
Alors, la liaison avec Kamel Chekat est rétablie. Kamel, on va recommencer depuis le début, puisqu'on a...
Désolé.
Ah, là, c'est parfait.
Alors, la contradiction supposée d'aujourd'hui oppose deux versets. Le verset 240 et le verset 234 de Sourate Al-Baqarah, la plus grande sourate du Coran. Et ça concerne la période de véduité d'une femme après le décès de l'époux. Le verset donc de 140 nous dit « Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, c'est-à-dire du domicile conjugal, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes, c'est-à-dire si elles veulent se marier ou se remarier. Allah est puissant et sage. » Ce verset, on va vous l'opposer au verset 234, donc avant lui, dans la disposition des versets dans le Coran. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. C'est ce délai. On ne vous reprochera pas la façon dont elles disposent d'elles-mêmes, d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors on nous dit... Nous savons que le verset 234 a abrogé le verset 240. Alors, d'une part, on vous dit, comment se fait-il qu'un verset abrogeant se retrouve avant le verset abrogé ? La question de la disposition des versets dans le Coran est une chose qui a été faite par Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. Et à chaque fois qu'on demandait au messager de Dieu alayhi salam, comment peut-on passer tel verset après tel autre verset alors qu'il ait été révélé avant lui, il disait généralement, c'est Jibril qui m'a ordonné de faire cela. Donc les musulmans ont le Coran, ils l'ont laissé tel quel parce qu'il n'a jamais été altéré, du moins pas par des humains. Et le verset donc 234, plutôt qu'une année de viduité, il prévoit 4 mois et 10 jours seulement. Et là encore, on nous dit, comment se fait-il ? Bon, alors, vous nous dites qu'il y a une abrogation, mais comment se fait-il que Dieu agisse de la sorte ? Avons-nous affaire à un Dieu qui ne connaît pas la nature humaine, auquel cas il a légiféré d'une manière qui ne prend pas en considération ce qui a été rendu ou maintenu comme code définitif à la fin. Eh bien, le premier verset est un verset qui a été révélé suite au décès d'un compagnon, Hakim ibn al-Harith, qui a exilé vers Médine, mais en provenance de Taif, pas de Mecque. Et après son décès, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, a ordonné à toute sa famille de veiller à ce que son épouse ait de quoi s'entretenir pendant une année. Ce qu'il faut savoir, quand l'islam est venu en Arabie, les femmes dans la période paganiste, dans la période anti-islamique, quand l'une d'elles se retrouvait veuve, elle devait choisir dans la demeure conjugale la plus mauvaise pièce, la moins éclairée, la plus étroite. Elle devait porter son vêtement, ce qu'elle détestait le plus parmi ses vêtements. Elle n'avait pas le droit de se maquiller, n'avait pas le droit de se laver, de se parfumer. Elle devait rester dans cet état pendant une année. Une fois cette année écoulée, elle sortait dehors, généralement, devant les gens. Et les gens, c'est comme si elle donnait matière aux gens d'assister à un spectacle, à de la puanteur, etc. Et au tout début de la révélation, l'islam a veillé que cela ne se fasse plus. D'ailleurs, dans la tradition musulmane, une femme n'observe le deuil que pendant 3 jours après le décès d'un proche, de son mari ou même de son enfant. Et après cela, la chose a été abrogée pour être réduite à 4 mois et 10 jours. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Voici donc pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et puis à demain, Inch'Allah.
Merci Kamel. C'est vrai qu'il n'y a pas de contradiction dans ces versets, mais nous, on a de la contradiction sur ce plateau ce soir.
Non, c'est l'imam quand même qui décide. Moi, je l'écoute avec un peu d'impertinence.
C'est comme ça. C'est comme ça que les premiers ont réussi dans le débat.
Oui.
Donc allez-y.
Et les respectables.
Mais à Cheikh Abdelali, il ne faut pas crier.
Ouais, je ne crie pas. J'essaie.
Généralement, Philippe, tu sais, c'est celui, Philippe.
Oui.
C'est celui qui manquera d'arguments qui criera le plus.
Mais pourtant, j'en ai ramené un paquet d'arguments.
Non, mais encore, il jeûne, parce que d'habitude, c'est encore plus, ça porte plus. Mais là, il est diminué. Merci Kamel, à demain. Voilà, dans ce monde de débat, on va accueillir Karima qui nous appelle de Paris au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan Karima.
Oui, bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Bon Ramadan et puis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, je voulais juste poser une petite question pour l'imam Abdelmoumen. Alors moi j'ai perdu ma sœur juste 3 jours avant le Ramadan.
Allah yarhamou salia, Rabbi adam ajrakoum.
Miskina, elle était malade, miskina, et puis elle a toujours vécu. C'est une jeune femme qui a toujours vécu dans la maison de mes parents. Du coup, c'est moi qui m'occupais d'elle, même s'il y avait la famille, mais c'est moi. Bon, bref. Tout ce qu'elle a pu laisser après elle, c'est juste un petit peu d'or, c'est-à-dire une parure et des bracelets. Et moi, on m'a dit il faudrait les répartir entre les frères et sœurs.
Alors, vous devez informer vos frères et sœurs du legs, de ce que... Ah ben, et ils savent que c'est vous qui l'avez pris.
Ah, je ne l'ai pas pris, il est toujours à la maison familiale.
Mais la maison, mais chez qui, c'est qui?
Il y a mon frère derrière moi.
D'accord, donc il faut bien qu'il y ait... Non. Ce qu'il faut, c'est réunir la famille à la maison.
Oui.
Et vous vous mettez d'accord sur qui prend quoi, qui fait quoi.
Non, mais elle a juste une chaîne et des bracelets. Et les frères et sœurs, ils sont nombreux. Donc la question que je voulais poser, est-ce que je vais évaluer le montant exact de ces deux bracelets et je leur donne l'argent?
Alors vous leur donnez leur part, bien sûr.
Je donne au grand, ils se répartissent. Moi je connais pas répartir, je sais pas.
C'est très simple. Attends, vous avez combien de frères? Vous êtes combien de frères et sœurs dans la famille?
4 frères et 3 sœurs.
Attendez, et cette dame là, votre sœur là. Elle a laissé des enfants? Elle avait des enfants?
Non, elle n'a pas été mariée, je vous ai dit, elle a toujours été.
D'accord, et elle est morte avant sa mère ou après sa mère?
Non, après.
Après, donc quand au moment où elle est décédée, elle n'avait que des frères et sœurs, c'est ça?
Que nous, oui.
Oui, que des frères et sœurs, répondez-moi.
Oui,
ne répondez pas plus que ce que j'ai besoin de savoir. Donc là, elle meurt, elle n'a que des frères et sœurs, c'est bien ça?
Oui.
D'accord. Ok, ok. Eh bien, la règle elle est simple. C'est les zakari mitlo hadhil unthayin. Donc là, c'est deux parts pour les garçons et une part pour les filles.
Pour tout
l'héritage.
C'est comme l'héritage.
Mais bien sûr, c'est l'héritage. Bien sûr que c'est l'héritage. Mais tout, même si elle a une voiture, si elle avait une maison, si elle avait de l'argent en banque, c'est quoi que ce soit, tout ce qu'elle lègue, étant donné qu'elle n'a que des frères et sœurs, ce sont donc les frères et sœurs qui héritent à hauteur de deux parts pour les garçons et une part pour les sœurs. D'accord.
Donc je repose ma question, puisqu'elle n'avait pas grand-chose, est-ce que je peux évaluer ça au vrai?
Non, attendez, ce que vous devez faire, c'est réunir d'abord la famille. S'ils veulent appliquer le Coran, à ce moment-là, on applique ce que je viens de dire. Si les frères disent, je m'en fous, Anna, j'ai pas besoin de cette heure-là, tu veux le prendre, tu le prends. Ou la couloir de Galana Machatini Machsnich, ils goulent comme. Ils veulent leur part, c'est ça que vous voulez me dire. D'accord, vous leur donnez leur part. Vous faites une évaluation. Imaginons que vous êtes combien de frères et sœurs, vous m'avez dit? Vivante, à sa mort.
4 frères et 3 sœurs.
Mais elle est dedans, dans l'eau. Vous l'avez mis dedans?
Non.
D'accord.
Non,
donc, donc 4 frères et 3 sœurs, c'est ça?
Et 3 sœurs. Oui.
Donc, 4 fois 2, ça fait 6. Non, 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Plus 3 sœurs, ça fait 11.
Oui.
Donc, ça fait, au total, ça fait 11 parts. Donc, imaginons le total de l'or, ça fait 11 000 euros, je dis ça comme ça. Hein. Je sais que c'est pas, mais bon, imaginons ces chiffres, un chiffre en haut. Eh bien, vous donnez 1 000 euros à chacune des sœurs et 2 000 euros pour chacun des frères.
D'accord.
J'ai donné un chiffre rond sur la base de 11 000 euros, mais après, vous faites le partage en divisant par 11. 11 parts, d'accord. Et vous donnez deux parts à chaque frère et une part pour les...
La somme qu'on me donnera, la réaction.
La valeur des bijoux, tout à fait.
La valeur, donc je la partage en 11.
Mais vous pouvez très bien d'abord faire l'évaluation. Imaginons, vous évaluez, ça vaut 11 000 euros par exemple. Je dis un exemple toujours, c'est un exemple. Mm-hmm. Et vous donnez à chacune de vos sœurs 1 000 euros et à chacun de vos frères 2 000 euros. À ce moment-là, vous pouvez garder les bijoux pour vous après avoir dédommagé, du moins payé la part des bijoux parce que il y a la partie, le côté sentimental, vous avez voulu garder les bijoux et vous avez payé leur part aux frères et sœurs. Eh bien, c'est bon, pas de problème.
19h20. Pour l'ADN en direct ce soir, Imam Abdel Ali en direct comme tous les soirs sur Beurre FM, c'est Ramadan & Co.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdel Ali Mamoun sur Beurre FM.
Et on rêve tous de changer le monde avec Ousmane Timéra.
Oui, nous rêvons tous de changer le monde, même si c'est en cachette, disait le rappeur. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mais Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Il s'agit de grandir en intelligence, ce qui permet à l'être humain de se distinguer des animaux, c'est sa capacité à questionner le sens du monde, le sens des choses, à ne pas s'arrêter aux apparences, à ne pas se satisfaire de ce monde. Nous sommes les seuls êtres humains qui nous posons des questions sur des choses qui ne concernent pas immédiatement notre subsistance. Quelle est l'origine de ce monde? Quel est le sens de la couleur du ciel? Pour quelle raison est-ce que mon cœur bat de cette manière? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui existe alors que il aurait pu y avoir rien du tout? Ce sont des questions fondamentales qui montrent que l'être humain semble ne pas se satisfaire de ce monde et semble vouloir trouver autre chose au-delà de ce monde qui puisse le combler. Le cœur a un fragment qui lui manque et que rien, ni matière, ni richesse, ni un enfant, ni un quelconque bien que nous considérons être comme une chance ultime que seuls les milliardaires peuvent avoir, rien ne peut combler ce fragment qui manque au cœur de l'être humain, si ce n'est Dieu, le transcendant. Ce besoin d'infini montre que nous cherchons au-delà. Et donc, il y a une histoire qu'il me faut vous raconter. Un jour, un prophète à la recherche de la connaissance. Un prophète qui a bien plus de diplômes que l'un d'entre vous, et bien plus que celui qui est en train de vous parler, puisque son diplôme vient du divin. Il est à la recherche de la connaissance, c'est Moïse, et il rencontre un homme pieux qui doit être son professeur. Il est plein d'humilité, tout prophète qu'il est, comme nous devons être plein d'humilité. tout faible humain que nous sommes. Je veux te suivre, je veux connaître la sagesse que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas me suivre car c'est là des choses que tu ne comprends pas. Comment d'ailleurs peux-tu comprendre quelque chose qui te dépasse en compréhension ? Mais s'il te plaît, laisse-moi te suivre. Je serai patient, je prendrai le temps de t'écouter. Alors, lui dit-il, si tu me suis, tu te dois de ne pas me poser des questions sur les gestes que tu verras de moi. Un bateau vient, il est posé, il rentre dedans. L'homme en question ne trouve pas d'autre chose pour les remercier que de trouer le bateau. Vas-tu donc faire en sorte de nous noyer ? Est-ce ainsi que tu remercies ceux qui ont pris le temps et la gentillesse de nous accueillir ? Ne t'avais-je pas dit, lui dit-il, que tu ne pourrais pas me suivre et me comprendre ? La même situation a lieu avec un enfant. Il est égorgé par l'homme en question. Quelle chose horrible ! La loi doit s'appliquer. On doit lui couper la tête. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais pas me suivre ? Et il part dans un endroit. Cet endroit, les gens sont méchants. Ils n'ont pas de papier. On veut les rejeter. Peu ne s'en faut que nous disions qu'ils votent pour l'extrême de quelque chose. En tous les cas, ce sont des immigrés. Et ils n'ont pas de quoi recevoir de la nourriture. Et là, tout d'un coup, un mur est sur le point de tomber. L'homme pieux se lève et décide de le redresser. Et Moïse de lui dire, mais je ne comprends pas ton attitude. Tu redresses ça dans un pays qui nous rejette, alors que tu aurais pu quand même demander de l'argent, de la récompense, de quoi manger. Dans l'apparence des choses, cela semble contradictoire. Trouver un bateau, il va couler. Tuer un enfant qui n'a rien fait, c'est un grand péché. Et d'ailleurs, redresser gratuitement, rendre service à des gens qui nous ont fait du mal, ça n'a pas de sens. C'est ici la séparation. Mais je vais t'expliquer, lui dit-il, le sens de ce que tu n'as pas saisi. C'est au fond la main du destin qui se montre à nous. Une personne tombe malade. Une loi est édictée dans le livre. On n'en comprend pas le sens. Un problème, un enfant meurt. Et qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour recevoir un tel châtiment ? La main de Dieu est ici incarnée par cet être humain. Et il apprend à Moïse de voir au-delà de la loi, au-delà de l'événement, et en comprendre le sens. Le bateau, troué, c'est vrai. En apparence, c'est pas bon. Mais quand tu regardes plus loin, tu regardes la finalité, tu comprends qu'il valait mieux trouer le bateau plutôt que de laisser un tyran voler le bateau, et c'était ce qui allait arriver. L'enfant en question, oui, était innocent, mais ses deux parents étaient des gens bien. Et tout indiquait que cet enfant, du point de vue divin, allait causer du tort aux parents. Nous avons donc décidé de lui ôter la vie, et nous savions qu'il allait être remplacé par un enfant beaucoup plus pieux et meilleur, et qui rendra heureux ses parents. Quand au mur que j'ai redressé, eh bien, il appartenait en réalité à deux orphelins. Un trésor se cachait, et ces orphelins avaient un papa très pieux qui est mort, et moi, Dieu avait décidé de faire en sorte que ce trésor soit caché, et que lorsqu'ils grandiront, ils pourront le sortir et s'occuper de leurs affaires. Voilà ce que tu n'as pas pu comprendre de l'intelligence, le sens des choses, au-delà des apparences. Moïse l'a compris, et son histoire est vécue à travers cette histoire. N'avait-il pas été l'enfant qui avait été jeté dans la mer, et tout indiquait qu'il allait se noyer comme le bateau ? Il s'en est pourtant sorti, grâce à Dieu. N'avait-il pas lui aussi tué un homme innocent, comme cet enfant innocent ? C'était là une leçon pour lui, dans sa propre vie, et pourtant Dieu l'a choisi. N'avait-il pas aidé deux femmes innocemment qui étaient présentes, alors que tout indiquait que bon, il devait les laisser, et pourtant il les a aidées, alors que là il s'agit de deux orphelins. Ici, dans l'autre cas, tu comprenais pourquoi, là-bas tu ne savais pas pourquoi, et pourtant on te demande de voir, regarder au-delà des apparences, au-delà de la lettre. Cela est vrai pour les événements de la vie, comme de la création de l'univers, comme des règles de la loi. La loi, en sa lettre, vise toujours l'esprit. Les actions de Dieu visent toujours une sagesse, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Recherche les signes, tu comprendras. Fais preuve d'intelligence en allant au-delà des apparences. Car au-delà des apparences, il y a l'au-delà, il y a Dieu.
Ousmane Timira, alors vous pouvez prolonger justement cette chronique, puisque vous pouvez la visionner sur la chaîne YouTube de Beurre FM, puisque la chronique est filmée, il y a une captation. Donc vous pouvez aller sur le YouTube de Beurre FM et vous avez Ousmane Timira, on rêve tous de changer le monde. Imam Abdelali, vous savez que tout le monde est gâté tous les soirs hein, grâce à Maul Patron.
Oui, effectivement, Maul Patron offre un cadeau tous les soirs du Ramadan. C'est soit une télévision, soit un aspirateur sans fil, qui est très bien.
Alors, je sais pas, cette année, l'aspirateur a vraiment la cote. Hein.
Oui, tout le monde parce que, peut-être parce que c'est moi qui lui a fait.
C'est vous qui
moi, comme je l'ai acheté, moi, au magasin, et je l'ai essayé, et qui marche bien. Tout le monde a tendance à vouloir choisir le aspirateur. En tout cas, il y a le choix entre télé ou aspirateur, ça c'est sûr. Et c'est donc un VIP, un VIA, un very important auditeur, qui donc est tiré au sort par un invité, ou par moi, ou par Osman, ou par quelqu'un qui est ici. Et qui gagne, donc qui devient le VIP, qui gagne bien entendu ce cadeau de la part de Maul Patron, voilà, qui je rappelle, quatre adresses où vous pouvez acheter vos produits électroménagers.
Ouais.
Donc à Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire Buchelet, Aucanville à Toulouse, Ony à côté de Cergy, dans le 95, et enfin Tourcoing dans le Nord, à côté de la Belgique.
Et vous nous appellerez tout à l'heure au top départ, ça sert à rien d'appeler avant puisqu'on vous donnera le top. Et c'est peut-être vous qui terminerez la journée avec nous.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et le débat continue, hein. Voilà, c'est ça, pendant l'émission, en dehors de l'émission. On va parler d'autre chose.
Oui.
Ouais.
Inch'Allah,
on va parler d'autre chose. Une sourate bien comprise, tiens.
Mm-hmm.
Ousmane.
Il a repris sa place.
Oui.
Déjà, il a repris sa place.
C'est bien. Parce que j'ai failli prendre sa place pour le verset.
Il faut rester à sa place.
Parce que j'en avais un, moi, mais je vais quand même le laisser aujourd'hui.
Non, allez-y.
Le verset qui disait Fafirru ilallahi jami'an.
Ah, mashallah.
Ce verset-là qui fuyait. Fuyez vers Dieu. Voilà, je m'entendais pas bien là. Voilà, là je m'entends mieux. Fuyez vers Dieu. Comment cette injonction divine qui parle aux croyants, puisque il y a les dina amanu, il parle aux croyants. Donc peut-être ainsi atteindrez-vous la béatitude. Ce verset là qui dit fuir. D'abord, elle est motivée par tout simplement déjà un état émotionnel du croyant ou des croyants, parce qu'il parle ayyuhal mu'minun, oh vous les croyants, fuyez. Ça veut dire quand on fuit, Philippe, c'est qu'il y a, on est motivé par une émotion qui est la peur. On peut pas fuir, on va dire se sauver quand on aura peur. Et donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il est en train de dire en disant fuyez? Avant de fuir, faites-le, mais avec cet état émotionnel d'avoir la crainte et la peur de Dieu. Et ensuite il dit quoi? Vous fuyez par peur de Dieu, mais vers qui? Il est où l'abri, le refuge? De quoi on parle? Il dit Dieu, firru ilallah. Fala malja'a wala manja'a illa ilay. Il n'y a de refuge ni d'endroit où on peut se sauver dans ce bas monde, si ce n'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc le croyant qui cherche refuge auprès de Dieu, il le fait par peur de Dieu. Na'oudhu bika minka. On te demande protection de toi-même, oh mon Dieu, du mal que tu pourrais nous faire subir. Et cela est tout simplement la réponse à une question qui sera, elle, posée plus tard dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Yaqulu al-mar'u yawma'idhin. Il dira le croyant, où se trouve l'endroit où je peux me réfugier? Mais cette question-là qui est posée après, dans l'au-delà, la réponse, elle avait déjà été présentée et donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs alors qu'ils étaient dans ce bas monde. Mais lui qui vient poser la question dans l'au-delà, eh bien, ça sera pour lui trop tard. Donc le croyant doit répondre à cette question avant qu'il la pose lui-même le jour de la résurrection. Yaqulu al-mar'u yawma idin ayna al-mafar? Où puis-je me réfugier? Et il ne doit pas attendre cela. Il dit dans ce bas monde, firru ila Allah jami'an, firru ila Allah. Donc fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela sera mieux où vous les croyants, pour vous. Donc ce verset là, moi, il me touche parce que c'est une injonction mais qui impose à l'homme d'agir et qui, tout en suscitant en lui une émotion très forte qui est la crainte et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le croyant qui va démarrer les 10 dernières nuits du Ramadan doit augmenter sa crainte de Dieu tellement intensément jusqu'à s'assurer, du moins être convaincu qu'il fait partie des gens de l'enfer, pour justement obtenir d'Allah Azza wa Jalla l'affranchissement de l'enfer. Puisqu'on dit que la dernière décade, c'est la décade de l'affranchissement de l'enfer. Mmh. On n'est plus seulement pardonné, on est affranchi de l'enfer. On est affranchi, mais on était d'abord condamné. On a le sentiment d'avoir été condamné par le juge, et on obtient d'Allah subhanahu wa ta'ala cette grâce divine. Alors, des fois, elle est royale, des fois, elle est présidentielle, des fois, elle émane d'un gouverneur quand il veut gracier un condamné à mort. Hein, au moment même de la sentence, il est déjà condamné. Et la sentence va s'appliquer et on prend le téléphone, c'est comme on fait aux États-Unis, et on appelle le gouverneur. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le gracier quand même? C'est vrai, il a été condamné, il a été tout est contre lui, mais est-ce que vous voulez quand même le gracier? Eh bien, c'est ce que fait le croyant. Il demande d'Allah subhanahu wa ta'ala la grâce. Et il répète la formule que le prophète a donnée en conseil à Ummuna Aisha radhiyallahu anha, qui lui dira de dire et de multiplier cette formule lors des 10 dernières nuits du Ramadan qui nous attend. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Al-afwa, c'est la grâce divine. Tu es la grâce, tu aimes la grâce, comble-moi de ta grâce. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Voilà ce que fait. C'est-à-dire, c'est pas.
Et cette formule, il faut la répéter.
Voilà. Pourquoi? Parce que elle ne t'empêche pas d'avoir la crainte, la peur d'avoir été condamné. Tu continues encore plus à avoir, non seulement à être condamné, mais tu es persuadé que la sentence va s'appliquer sur toi. C'est-à-dire l'enfer éternel. Et à ce moment-là, tu demandes, comme demanderait un condamné, la grâce du roi ou du gouverneur ou du chef. Hein, du patron du pays, eh bien, il le fait avec Allah subhanahu wa ta'ala en demandant sa grâce d'être affranchi, d'être épargné des châtiments de l'enfer. Donc, c'est cette formule qu'à partir de demain, nous allons pouvoir multiplier, puisque nous allons bientôt rentrer dans les 10 dernières nuits du Ramadan, inshallah ta'ala.
Il est quelle heure? 18h, presque 52 minutes. On a encore un peu de temps. C'est à 19h20 que vous ferez la donne en direct sur Beurre FM.
Beurre FM, Ramouvision, le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. »
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
Il dit: Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
Puis après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps.
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. »
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future.
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants.
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême?
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. 30 jours avec vous. Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co et Sfaya nous a rejoint.
Sfaya, notre
petite sœur Sfaya nous a rejoint.
Mashallah. Bonsoir tout le monde. Ah, je suis tellement heureuse de vous
quand
voir.
Quand Sfaya est là, on sait que c'est le Ramadan.
Mashallah, voilà. Mashallah. Oui. Mais quand on savait qu'elle n'est pas venue avant, Philippe, c'est bizarre ça.
C'est lui, il ne m'a pas invité.
Ah.
C'est lui, c'est Philippe.
War raciste.
C'est pas moi.
War raciste.
Je lui ai dit, tu viens quand tu veux. Ah, elle m'a dit telle date, j'ai dit oui.
Je lui ai donné plusieurs dates.
Ah non. Puis, non, c'est vrai, j'ai dit pas en semaine parce qu'il faut qu'on se couche tôt.
Ouais. Mais, en semaine, tu te couches tôt.
Enfin, j'essaye. Mais
en tout cas, je suis super heureuse d'être avec vous ce soir.
Est-ce que tu as vu comme ils sont calmes
Moi,
j'attends juste de.
Il n'y a même pas de ring. Moi, j'aurais bien voulu avoir un ring.
Non, il
n'y
a pas de ring. Il faut un débat de méthodologie. Je le dis encore une fois. Mais bon, Inch'Allah, on est là pour apprendre.
Non, mais c'est des belles énergies.
Du Cheikh.
Très belles énergies.
Au-delà du savoir, il y a la pratique.
Il faut expliquer aux auditeurs que ce que vous entendez à l'antenne, on a la même chose en antenne. Hein. C'est ça qu'il faut que vous compreniez.
Non, ça va, vous inquiétez pas.
Non, mais c'est bien. C'est du débat. C'est vrai que le journée.
En tout cas, ma méthodologie, c'est celle des traditionnalistes, des savants ancestraux. Ce que je dis, c'est les savants qui disent selon ce que le prophète ou le Coran dit. Après, Othman, qui a le courage et l'audace de remettre en cause cette méthodologie en disant qu'il y a l'histoire des ahad et des hadiths, comme il l'évoque, je respecte ce point de vue, mais jusqu'à nouvel ordre, nous restons sur cette lignée parce qu'elle est rassembleuse, parce qu'elle permet de stabiliser l'esprit de nos co-religionnaires qui n'ont pas besoin d'entendre ça et toutes ces divergences. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une réponse à des questions et on est là pour justement satisfaire leurs besoins.
Alors moi, je veux qu'on parle de ce jour particulier pour les musulmans, qu'est le vendredi.
Oui, effectivement. Le vendredi, il faut savoir que le prophète a dit dans un hadith authentique, encore une fois, qui est vrai, qui est ahad, et que Othman, ici présent, a reconnu l'authenticité, qui dit qu'il y a un moment...
Méthodologie.
Voilà, méthodologie. Khair, Inch'Allah. C'est pas qu'un mot, méthodologie, c'est aussi des...
Alors, le hadith qui a été reconnu authentique.
Il dit tout simplement qu'il y a un moment, dans cette journée du vendredi, où l'invocation, la prière... c'est-à-dire la supplication, elle est exaucée. Elle fait l'objet de l'ouverture du ciel. Le ciel s'ouvre et Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Et il n'a la mawdi' istijaba, waqt istijaba, istijabat ad-du'a. Et donc j'en profite, Inch'Allah, pour prier pour tous nos frères et nos sœurs qui sont partis, qu'Allah Azza wa Jal les couvre de sa miséricorde, mais aussi pour ceux qui sont malades ou peut-être malades. Il y en a une justement qui apparemment a un doute sur peut-être qu'elle a atteint un cancer, elle est atteinte d'un cancer ou pas. As'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim an yashfiha. Allahumma rudd laha sihhataha wa 'afiyataha. Allahumma rabbana sadhi bil ba's. أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
اللهم إننا قد رفعنا أكفنا إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم فشافي كل مرضى من مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين, وشافي جميع الناس, كل من هو مريض في الدنيا اللهم شافيه يا رب العالمين وعافيه وخفف عنه آلام المرض يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين.
آمين.
Ousmane, vous voulez rajouter quelque chose?
Ouais. C'est, le cher vient de faire la doua pour la sœur particulièrement qui m'a appelé et qui, c'est une amie, et en larmes, qui s'inquiète pour sa chère maman. Mmh. Et donc le cher vient de faire cette invocation. On est de tout cœur avec elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise son âme, son cœur et lui donne la guérison. Et qu'il nous aide à accepter le destin qu'il nous impose, car au-delà, il y a toujours la sagesse de Dieu. Puisse Dieu la guérir et la protéger de tout mal.
Amen. Comme disait le prophète, la tatamanna liqa al-adou was'alou Allah al-afia. Jamais on dit ouais, c'est bien ce qui nous arrive de mal. Il faut toujours espérer le bien. On doit toujours faire des du'as pour obtenir et acquérir d'Allah subhanahu wa ta'ala le bien, mais quand le mal arrive, il faut être patient.
Voilà. C'est tous les vendredis qu'il y a cette fenêtre dont vous parliez tout à l'heure.
Oui,
c'est
tous les vendredis.
C'est pas forcément les vendredis de mois de Ramadan.
Tous les vendredis de l'année, tout à fait.
Non. Non. Le hadith est aussi la nuit, au troisième tiers de la nuit.
Ouais, la dernière heure, ce qu'on appelle ce moment-là que les Arabes appellent le sahar. وبال أسحار هم يستغفرون. إذا كان ثلث الأخير من الليل الله ينزل الله عز وجل السماء الدنيا. Allah descend dans le ciel de ce bas monde et interpelle les croyants qui dorment ou qui ne dorment pas ou qui sont en train de se prosterner et prier et pleurer pour obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction. Eh bien, il les interpelle. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui voudrait que je le pardonne? Je lui pardonnerai. Celui qui a besoin de nourriture, que je lui accorde les biens de ce bas monde, etc., etc. Jusqu'à que l'aube se lève, dira le prophète. Hatta yatlu al-fajr.
C'est ce moment particulier.
Voilà. Alors, mais le meilleur, c'est celui du vendredi. C'est ce dernier moment avant le coucher du soleil, après l'asr, qu'il y a un moment où il faut multiplier les du'as et les invocations. De la même manière qu'il est recommandé le vendredi de multiplier les prières et les salutations sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En plus, bien sûr, de réciter la sourate al-Kahf qui nous a été aujourd'hui très bellement détaillée. J'avais pas fait le lien avec ce qu'avait l'historique de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui, c'est vrai, avait reproché à Al-Khadir d'avoir fait ce qu'il a fait, alors que lui-même, finalement, avant, il avait oublié qu'il avait fait les mêmes erreurs. Ce qui lui semblait être une erreur. Alors que
comme quoi,
une...
dans la vie nous donne des leçons par rapport à des leçons qu'on n'a pas compris auparavant. Et d'une autre manière, toujours. La
Je
vie, ici, bien
cas,
sûr,
hein.
On parle de Dieu.
Ouais.
T'as pas compris une première fois, t'inquiète pas. Le professeur est là pour
te rappeler,
donner un autre examen, une autre épreuve.
Oui, mashallah.
Subhanahu wa ta'ala.
Et pourquoi sourate al-Kahf le vendredi alors?
Parce qu'elle est pleine de moralité, elle est pleine de sagesse, elle est pleine d'éclaircissement. Le prophète dit que celui qui la récite, Ada Allahu lahuma bayna al-jumu'atayn, elle va lui éclairer sa semaine jusqu'à la semaine suivante. Donc elle éclaire le croyant de par les sagesses qu'elle contienne, et notamment celle que nous a citée, puisque c'est une des quatre histoires. Il y en a quatre histoires dans la sourate al-Kahf. Justement, celle que vient de citer, c'est l'histoire de Moussa avec ce qui semblait être devenir son maître, le maître, c'est-à-dire le Khadr, qui va lui enseigner justement.
Il a inspiré d'ailleurs Voltaire avec Zadig ou l'a dessiné.
Alors, agent Fofo, est-ce que vous voulez bien resetter le standard, s'il vous plaît?
Ben voilà, on y va.
Il faut resetter le standard. Donc, on enlève tout le monde comme ça. On va faire un standard neuf. Comme ça veut dire que vous allez avoir toute la place que vous pouvez. Oui, bon, alors c'est compliqué de faire un standard neuf.
Moi, 9. Je veux la télé.
Hein? Ah ben, il faut que tu appelles. Parce que le top départ est donné. Donc, 0153 48 3000. Non, on va finir le mois, il n'y aura plus d'aspirateur, tu sais. 0153 48 3000. Donc, si vous voulez être le very important auditeur, c'est maintenant que vous pouvez composer le numéro du standard de Beurre FM, 0153 48 3000. Je pense que Sfaya, c'est toi ce soir qui va travailler.
Il y a pas de souci.
Qui va avoir cette lourde tâche de sélectionner le very important auditeur.
Il y a pas de souci.
Voilà. Qui veut une télévision?
Alors. Qui veut, ouais. Bah, vas-y. Non, sinon il la veut pas, il me la donne.
D'accord.
Donc tu dois donner un chiffre entre 1 et 6. Bah, c'est très facile.
3.
Le 3. On y va. Bismillah.
Alors c'est l'auditeur qui est sur la ligne numéro 3. Bonsoir, bienvenue. Alors, qui est là? Bonsoir.
C'est la famille Soumaré.
Soumaré, ça c'est le Sénégal ou le Mali?
Voilà, c'est les deux.
Ah, les deux. Ah,
bah, c'est les deux, alors comme ça, bravo. Alors, Imam Abdelali, vous avez gagné un aspirateur.
Bon, j'ai gagné une télévision parce que j'ai déjà l'aspirateur.
Un sommiquet, ça.
Soumaré, c'est un sommiquet ou un...
C'est un sommiquet, ouais.
Ah bah vas-y,
Qu'est-ce que vous vouliez dire à Ousmane Timéra?
Un petit salam alaikum, d'ailleurs à toute l'équipe. Hein,
merci.
Et en particulier à Ousmane, comme on se connaît. Donc voilà,
bon, c'est ah bon
salut, ouais.
Bah c'est gentil. Ouais, c'est Soumaré qui
je t'avais mis ta raclée au foot en salle à Bamako.
Ah, ah t'es sûr que c'était moi?
Il y a des doses, il y a des dossiers.
T'es sûr que c'était moi? Parce que
mais
moi,
c'est
je
comment ton prénom, Soumaré? Soumaré, c'est nom de famille.
Aouna.
Et vous nous appelez d'où alors?
Bah là, on est sur la 13, on va chez les parents.
D'accord.
Et nous, on est originaire de Nanterre.
Très bien,
machin. Bon, bah merci à toi, monsieur Soumaré.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous faire plaisir.
J'aurais voulu que tu lui dises en soniqué, comme ça, au moins.
Ouais, mais comme on a un beurre FM, on n'est pas soniqué.
Bah si, mais tu peux lui dire, comme ça, nous, on apprend.
Ah, Rarnoko et Medium Doheri.
C'est trop dur à répéter
ça.
Alors, est-ce qu'il y a un message à faire passer des personnes que vous voulez saluer?
Bah, salam alaikum à toute la communauté, que Dieu facilite toutes les personnes qui sont dans les difficultés et que Dieu fasse qu'on soit reconnaissant dans le confort en nous dans lequel on est.
Machin,
merci beaucoup.
Bien. Et alors, est-ce que.
Vraiment, on souhaite beaucoup de bien à Beurre FM parce qu'il nous accompagne depuis très longtemps dans ces moments-là.
Alors, rapidement, 5 secondes, télé ou aspirateur?
Télé, hein?
Télé, voilà.
Bravo.
Télé.
C'est le bon choix, c'est le bon choix, frère.
Bientôt chez vous.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب آمين آمين والحمد لله رب العالمين
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة سكس Sodari, Meirtadari. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.